The wind's 120 knots the west. Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God, dude.
Radio X.
La nuit tombe sur Québec et c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire des Radio X Files. Je vous souhaite un excellent début de soirée. Édition du vendredi 7 mars 2025 et sans plus tarder, voici l'extrait audio qui lance la thématique de notre soirée.
Il y a deux catégories de personnes qui prétendent avoir un don surnaturel. Celles qui imaginent réellement avoir un pouvoir quelconque. Et il y a celles qui croient nous berner avec leurs histoires.
Non, Léo, pas de ce côté-là. Sur ta droite, Richard Vargas.
J'appelle Richard Vargas au nom du Seigneur.
Tous ont tort.
Et sinon, vous bossez avec Matheson depuis longtemps, en tant que psychologue et magicien?
En fait, je suis physicien.
Alors pourquoi vous faites ça?
Je fais quoi?
Vous inquiétez sur des affaires paranormales.
Simon Silver, qui est sûrement le médium le plus célèbre de tous les temps, viendra donner une représentation ici dans 3 semaines. Il y a fort à parier que les places vont se vendre comme des petits pains.
Il faut croire qu'il n'y a plus de défis intéressants à relever.
Silver en est un de défi.
J'ai déjà enquêté sur lui.
Oui, ça c'était il y a 30 ans. Il faut le refaire maintenant.
Il n'y a qu'un seul moyen pour découvrir la vérité.
Vous essayez de me défier? Est-ce que vous mettez en doute mes pouvoirs? Silver!
Bonsoir, Monsieur Christian Page.
Bonsoir, Camille.
J'espère que t'as passé une meilleure semaine que moi.
Pourquoi, toi, c'était mauvais?
Ben écoute, les médiums savent nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais quand c'est le temps d'essayer d'avoir notre bonne fortune et de nous dire notre bonne aventure, ça fonctionne pas le Wi-Fi dans leur temple céleste. Donc c'est ça m'a fait sourire, je me suis amusée avec des médiums. C'est un petit peu la thématique de l'émission de ce soir pour la psychologie et la cryptozoologie. Et ça m'a fait sourire d'entendre la bande-annonce de Red Lights en début d'émission.
Oui, effectivement, tu le mentionnes, Red Light, c'est un film de 2012 qui mettait en vedette Robert De Niro, Cillian Murphy, Sigourney Weaver, et qui tournait autour de la perception extrasensorielle et des pouvoirs de l'esprit. Hein, et c'est un peu le sujet de notre première nouvelle de ce soir, parce que tu l'as mentionné, hein, c'est un grand débat, la parapsychologie tourne autour de ça, cette perception extrasensorielle. Rappelons que c'est quand même une discipline qui est relativement récente, qui a à peine un siècle. Hein. Le phénomène de la perception extrasensorielle a commencé à être étudié au début du 20e siècle parce que il y avait une espèce... Bon, déjà, il y avait eu la mouvance du mouvement spirit dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et beaucoup de scientifiques s'étaient intéressés à cette question-là. Est-ce qu'on peut réellement communiquer avec les défunts? Et peu à peu, avec tous les aspects un peu de charlatanisme qui avait été mis à jour, et notamment cette guerre qu'avait livrée Harry Houdini contre les médiums et qui avait exposé nombreux d'entre eux et aussi les techniques qu'ils utilisaient pour nous faire croire qu'on communiquait avec l'au-delà, les scientifiques se sont détournés de ça et ont commencé à s'intéresser à la perception extrasensorielle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par perception extrasensorielle? On va y aller de manière assez large, là. C'est d'abord la télépathie, hein, donc communiquer sans utiliser la parole, donc d'un esprit à un autre. Il y a également la précognition, donc prévoir des événements qui sont à venir. Il y a évidemment la médiumnité, donc communiquer avec le monde des défunts. Il y a aussi l'aspect de ce qu'on appelle les psy ou les sensitifs, donc percevoir des informations par d'autres moyens que nos 5 sens. Et enfin, la télékinésie, phénomène qui a beaucoup marqué, notamment depuis le film Carrie, hein, basé sur le roman de Stephen King, donc la possibilité d'utiliser l'esprit pour avoir une action sur la matière. Donc, ce sont les principales thématiques qui intéressent les parapsychologues. Et on s'y intéresse depuis un siècle. Jusqu'à maintenant, puis on va dire les choses telles qu'elles sont, même je sais que ça peut décevoir certains, là, mais jusqu'à maintenant, la parapsychologie n'a pas permis de démontrer l'existence de ces phénomènes. Ce qu'elle a démontré jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des anomalies statistiques. On voudrait bien avoir la preuve absolue là, qu'en laboratoire, quelqu'un puisse tordre des cuillères ou bouger des objets, mais ça ne s'est jamais produit, pas dans des conditions rigoureuses de laboratoire. On pourra toujours dire, oui, mais sur le terrain, ça semble fonctionner. Oui, mais pour les scientifiques, c'est ce qui se passe dans le laboratoire qui est important.
Ouais.
Et on n'a jamais réussi à le faire en laboratoire. En revanche, en menant des expériences, notamment dans le domaine de la télépathie, donc essayer permettre à des personnes d'échanger de l'information. Donc, on a un émetteur et on a un receveur dans une pièce. Évidemment, ça ne se fait pas de manière à dire, bon, ben voici, j'ai une image et l'autre doit déterminer l'image. C'est pas tout à fait comme ça que les tests fonctionnent. C'est plutôt au niveau de la réception. Si je vois des enfants qui sourient, une image qui montre des enfants en train de jouer, je suis l'émetteur, je me concentre sur cette image-là. Ben, dans l'autre pièce, si la personne commence à dire ben, « je vois soit des enfants, un sentiment heureux, d'amusement, ludique », on a donc une correspondance qui est très proche de l'image. Hein. Donc, okay. On ne va pas décrire
ça
l'image.
Ça se fait sur une feuille blanche, il y a quelqu'un qui est face à vraiment le vide et l'autre a l'image de son côté. Okay.
Voilà. Et on sait que dans les années 70, ça reste quand même très controversé, mais dans les années 70, les services de renseignement américains, bon, à l'époque, je ne veux pas entrer là-dedans, peut-être qu'éventuellement on se fera une émission parce que c'est un sujet qui est très intéressant,
bien
mais
sûr.
Dans les années 70, à cette époque, on a commencé à voir des films qui venaient de l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique. Et dans certains de ces films, on voyait des gens, je pense notamment à une ménagère de Leningrad qui s'appelait Nina Kulagina, qui réussissait à déplacer des petits objets en ce qu'on appelle un peu de la microkinésie. Donc, elle réussit à déplacer des petits objets sur une table, une salière, des allumettes, ce genre de trucs-là, en utilisant essentiellement le pouvoir de sa volonté. Et ces images, on ne sait pas trop comment elles sont arrivées du côté du monde occidental. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est de la désinformation? On ne le sait pas trop. Mais à partir du moment où le bloc de l'Est s'est tombé avec la chute du mur de Berlin, il y a des gens qui ont retrouvé Nina Kulagina et puis on lui a demandé de faire une performance devant les caméras, puis elle n'était plus capable de le faire.
Ah, OK.
Donc, j'ai des images là, assez amusantes de Nina Kulagina. Là, on est dans les années 90, puis des gens l'abordent, puis on lui demande d'essayer de déplacer un tube de rouge à lèvres sur une table, puis elle était capable de le faire. Donc, mais elle soutient que dans les années 60, elle réussissait à le faire. Bon, donc, qu'est-ce que c'était exactement? Et à ce moment-là, tout ça pour nous ramener un peu dans le contexte, comme ces images commençaient à circuler, c'était une époque assez particulière, les années 50 et 60 aux États-Unis, le bras de fer que se jouaient les deux super grands, donc l'Union soviétique et les États-Unis, était tout à fait incroyable. Et à ce moment-là, les services de renseignement américains sont informés que les Soviétiques s'intéressent à la parapsychologie, donc ils s'intéressent à la clairvoyance et bon, la perception extrasensorielle et tout le reste. Ils auraient apparemment des médiums. Ils auraient même développé, hein, et ça c'est un peu ce que les Américains avaient un peu accroché là-dessus, ce qu'on appelait des armes psychotroniques.
Okay.
Donc, une arme psychotronique, c'est, imagine-toi une bombe, mais dont toi, l'humain, tu es le détonateur. Puis on ne parle pas ici là, d'un kamikaze. Là. Toi, tu es le détonateur que tu vas déclencher avec ta pensée. Donc, on a simplement des bâtons dynamiques, de dynamite, par exemple, qui sont reliés à un mécanisme. Et toi, à un kilomètre de distance, tu te concentres sur le mécanisme et tu l'enclenches et tu fais exploser la bombe.
Il ne faut jamais que ça genre. Existe, ça. Là,
bon, c'était l'idée de l'arme psychotronique. Il y avait d'autres variantes, mais ça, je pense que ça met bien la table pour que les auditeurs comprennent de quoi il est question. Et à ce moment-là, donc, ça se met à circuler, l'information circule que les Soviétiques travailleraient apparemment au développement d'armes psychotroniques en plus de s'intéresser à la parapsychologie. Et donc, les Américains, de leur côté, ne voulant pas se faire damer le pion par les Russes, se disent, ben voilà, on va mettre également, nous aussi, des efforts pour essayer de domestiquer ces espèces de pouvoirs extrasensoriels. Et dans les années 70, en fait, de 1970 à 1995, donc c'est quand même une assez longue période de temps, c'est 25 ans, les autorités, les services de renseignement américains, en particulier, il y a un département qui s'appelle la DIA, c'est la Defense Intelligence Agency, donc c'est le service de renseignement du service de la défense. Ils vont mettre de l'avant une espèce d'unité spéciale qui est composée de, apparemment, de voyants, de clairvoyants, de médiums, mais des gens qui appartiennent au corps militaire. Ce sont tous des militaires. Puis bon, ben, c'est un peu comme on a dans nos familles, c'est du genre, ah ouais, tu t'es coupé, bon, ma tante Gertrude, elle arrête le sang, on va appeler ma tante Gertrude. Ou, ah, t'as perdu tes clés, demande à Bob, il est bon pour retrouver des objets perdus. Bon, tu vois un peu le genre.
Y a-tu du data scientifique pour les arrêteurs de sang, Christian?
Non, y a pas de data là-dessus.
OK, parfait. Non, mais il faut régler ça, pas pour toutes, là.
Ça marche pas. L'arrêteur de sang, ça n'a pas marché.
OK, parfait.
Mais, bon, fait que là, on a fait un décantage, une sélection parmi le personnel militaire, donc les militaires qui avaient la réputation dans leur propre rang, dans leurs propres unités, d'avoir des espèces de dons. Ah ouais, lui il est bon, il est tôt, un peu comme une longueur d'avance, il perçoit des choses, il a des dons. Bon, et à partir de là, on a fait une sélection de ces militaires-là, on a dégraissé, et éventuellement on s'est retrouvé avec une unité d'une vingtaine de personnes qui apparemment avaient des dons de clairvoyance, et on a mis en place ce qu'on a appelé, ça avait plusieurs noms, plusieurs programmes qui ont été regroupés sous un grand nom parapluie qu'on appelle le projet Stargate. Donc Stargate, c'était une unité composée de sensitifs et l'une des techniques qu'ils utilisaient, qui a beaucoup fait fantasmer, c'est la vision à distance. Donc cet individu s'assoyait et puis il essayait de se concentrer, on lui donnait une cible. Et puis la cible, ça pouvait par exemple être une carte géographique ou une photographie géographique sur laquelle il n'y avait rien vraiment qui apparaissait, ou simplement une carte sans aucune indication. Donc là, en regardant la carte, le sensitif, ne pouvait pas déterminer si c'était en Russie, si c'était en Chine, si c'était ailleurs. Il y avait simplement une carte devant lui et il essayait de voir s'il y avait des cibles là-dessus. Et puis, bon, certains se sont mis à décrire, par exemple, des usines de missiles, d'autres des bases de construction de sous-marins. Bon, et puis, il faisait des dessins et des graphiques. Et puis, en 1995... Comme les voyants, c'était souvent en dents de scie, hein. Il y a des journées que les voyants étaient très bons. Là, je dis voyants, mais en fait, on devrait utiliser les termes sensitifs. Là. Oui. Voyants et dans le cas des sensitifs, ils réussissaient c'était en dents de scie. Des fois, ils réussissaient à faire de très bonnes descriptions. Puis parfois, bon, ben, c'était très hésitant. Et les militaires en arrivent à la conclusion qu'on ne peut pas tirer profit de ça pour mener une opération stratégique. Tu peux pas dire on va envoyer une troupe attaquer un ennemi en supposant ou en se croisant les doigts que notre clairvoyant, notre visionnaire
va voir juste.
Puis là, finalement, ben, il s'était pas levé du bon pied. Finalement, il avait pas vu juste. Puis ils ont tombé dans un traquenard. Tu sais.
Ouais.
Donc, tu peux pas faire ça. Donc, l'armée s'est retirée en 95 en disant, ben voilà, on met fin au projet Stargate, qui jusqu'à ce moment-là était gardé secret. Hein. Moi, je me rappelle, dans les années 70 ou au début des années 80, il y avait cette rumeur-là qui circulait, hein, que les services de renseignement américains et certaines unités spéciales travaillaient à Fort Meade avec des sensitifs. Mais c'était un peu une rumeur de coulisses, là, des discussions de comptoir qui n'allaient pas très, très loin. Et puis en 1995, le département de la Défense a rendu public les dossiers, a mis fin au projet, a rendu public les dossiers. Et apparemment, ça reste controversé, là, on s'entend bien, là, c'est controversé, comme tout l'univers de la parapsychologie. Jusqu'à maintenant, ces tests-là ne prouvent pas l'existence de pouvoirs paranormaux, quels qu'ils soient. Mais ils montrent, et c'est vrai pour les cas de Stargate, comme c'est vrai pour les laboratoires, disons, civils qui se sont intéressés à la parapsychologie. Il y a un peu un âge d'or, hein, de la parapsychologie dans les années 60-70. Il y avait plein d'universités qui avaient des départements de recherche en parapsychologie. Et puis, bon, pour des restrictions budgétaires et compagnie, et surtout parce que la recherche était un peu stagnante,
ouais.
Ces laboratoires-là se sont désistés. À un moment donné, on dit, bon, OK, on ferme ça parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Ce que ces recherches-là ont démontré, et ça, il faut bien le préciser, contrairement à ce que des charlatans pourraient vous dire, on n'a jamais, mais jamais démontré avec une certitude absolue l'existence de la perception extrasensorielle. Ça n'a jamais été démontré. Par contre, on s'est retrouvé en présence d'anomalies statistiques.
Okay.
Donc, on avait ce qu'on a découvert, par exemple, je te donnais ce scénario avec un émetteur et un récepteur qui essaient de se concentrer sur des photographies.
Ça reste toujours perçu comme justement des exceptions à la règle.
Voilà, c'est un peu des exceptions à la règle, mais on a quand même pu déterminer qu'il y avait des anomalies statistiques. Et les anomalies statistiques étaient encore plus soutenues lorsqu'on était en présence de gens qui avaient des relations émotives entre elles. Fait que là, on se disait, bon, ben, par exemple, si on prend une mère et sa fille, la mère se concentre sur des images, la fille est le récepteur, bon, et vice-versa. Ça fonctionnait mieux si les gens se connaissaient ou s'ils avaient une relation émotive entre eux que si on prenait deux étrangers. Cela étant dit, encore une fois, on peut toujours se poser la question, est-ce que s'il y avait un échange de paroles ou est-ce qu'il y avait une espèce de relation qui fait que... Je sais pas. T'sais, on a essayé de trouver toutes sortes de scénarios, de dire, ouais, mais ils ont un lien émotif. Si elle décrit une image, est-ce que la façon dont elle la décrit, la mère perçoit quelque chose? Ça reste très complexe. Mais on est arrivé avec des anomalies statistiques. Ce qui fait bondir un peu quand même, et je le comprends, les gens qui s'intéressent au milieu de la parapsychologie, c'est que dans différentes disciplines scientifiques, les anomalies statistiques sont acceptées. C'est-à-dire, si tu prends, dans le domaine pharmaceutique, si tu donnes un vrai médicament à un groupe de patients et un placebo à un autre groupe de patients, c'est encore une fois, c'est la valeur statistique qui va jouer. C'est-à-dire, on va dire, ben voilà, les gens qui ont pris le véritable médicament, il y a eu un taux de mieux-être, de guérison,
un certain pourcentage de
ces gens-là, versus, parce qu'il y en aura également dans le groupe placebo, parce que bon, des gens vont soudainement se mettre à croire qu'ils ont moins mal à la tête ou ils ont une moins grande douleur musculaire, alors qu'en réalité, ils ont pris simplement des pilules de sucre. Bon, c'est normal, l'humain fonctionne comme ça. Mais bon, c'est la donnée statistique qui va révéler que bon, ben, le vrai groupe auquel on a donné des médicaments ont connu de manière statistique un mieux-être beaucoup plus pertinent que le groupe placebo ou le groupe témoin. Donc, à partir de là, on accepte les données statistiques. On va également les accepter dans le domaine de l'astronomie ou de l'astrophysique. Par exemple, on spécule que autour de telle ou telle planète ou de telle ou telle étoile doit y avoir telle ou telle planète, ou etc., où on extrapole sur la présence de trous noirs ou de ci ou de ça, essentiellement sur le fait qu'on a des variantes ou des anomalies dans la gravité de certaines étoiles ou gravité de certaines planètes. Puis là, on présente des éléments qui sont d'ordre statistique et on les accepte. Mais okay, quand on arrive à la parapsychologie puis on présente des éléments d'ordre statistique, il y a immédiatement une levée de bouclier. Cette levée de bouclier, elle est comprenable parce que il y a une espèce de... Dans l'idée de la parapsychologie, on flirte beaucoup avec le religieux. C'est-à-dire, puis je sais que je le répète souvent, mais si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'enjeu. Quelqu'un dit, ben moi, j'ai un don de guérisseur, je guéris des gens. Ben, la question qu'on peut se poser, c'est la question que se posent les scientifiques. OK, quelle est la différence entre M. X qui dit qu'il y a un don de guérisseur et aller à l'oratoire Saint-Joseph et dire que le frère André m'a guéri puis que j'allais accrocher ma canne sur le mur? Tu vois, on a à entredire, j'ai un don de guérisseur et Dieu, à travers moi, guérit des gens comme le faisait le frère André. C'est quand même assez limite.
Et pourquoi tu as été choisi et pas d'autres personnes aussi?
Voilà, et là, ensuite de ça, il y a toutes sortes de légendes que les gens se font autour de ces dons-là. Entre l'idée de voir un fantôme et l'idée de voir la Vierge Marie, de toi à moi, il n'y a pas grand-chose qui... En fait, on change les mots, on change les noms, mais c'est un peu la même chose.
Ouais.
Quelqu'un qui dit « je reçois des messages des défunts », puis quelqu'un qui dit « je reçois des messages du Christ », c'est comme on a changé d'interprète, mais c'est la même chose.
Ouais.
Et parce que la parapsychologie flirte avec le religieux, et le religieux et la science, ça n'a jamais fait bon ménage. Donc on comprend qu'il y a cette résistance-là. Cela étant dit, ça nous amène à notre première nouvelle. Je sais, j'ai fait un très, très long
détour. Non, mais c'est une parenthèse, tu as mis la table, c'est parfait.
Ouais.
Est-ce qu'on a découvert le siège de la perception extrasensorielle?
Voilà. Et on se posait la question, OK, mais si elle existe, jouons le jeu un peu, parce que même à l'époque, elle a été posée, cette question-là. Dans les années 60, par exemple, les parapsychologues aimaient beaucoup travailler avec ce qu'on appelait des surdoués du psy. Donc, des gens qui étaient capables de performances extraordinaires. On avait un type qui s'appelait Ted Sirios, qui lui, apparemment, était capable d'imprimer ses pensées sur des photographies.
Okay.
On lui donnait un appareil photo, On lui dit, OK, mon Ted, concentre-toi, la cible, c'est la Tour Eiffel. Fait que là, il se concentrait sur la Tour Eiffel, puis schlac, il prenait une photo. Polaroid, qui et là, quand on sortait la photo du Polaroid, c'était un peu flou, mais on reconnaissait quand même la Tour Eiffel. Donc,
un peu comme quand on se ferme les yeux puis qu'on fixe une lumière, là, puis que ça fait comme des formes.
C'est ça. Fait que là, on disait, bon, ben Ted Sirius est capable d'imprimer comme ça ou d'envoyer des images, des pensées sur du papier photographique. Puis il y avait d'autres personnes. On se rappelle Uri Geller qui disait être capable de tordre des cuillères du métal avec le pouvoir de la pensée. Un truc quand même qui est beaucoup utilisé par des magiciens aussi. Oui, c'est ça. Mais il y avait toutes sortes d'éléments comme ça et on aimait travailler avec les surdoués du psy. Et puis on se posait la question, on disait, OK, on travaille avec des surdoués du psy, mais est-ce que tout le monde a... jouons le jeu une seconde. Imaginons que la perception extrasensorielle, les pouvoirs de la perception extrasensorielle, un peu comme on l'a entendu dans la bande-annonce, hein, quand Robert De Niro lui dit « Est-ce que vous doutez de mes pouvoirs? » Ouais, jouons un peu la carte. Imaginons que les pouvoirs extrasensoriels existent réellement. Est-ce que tout le monde a des pouvoirs de perception extrasensorielle ou est-ce que ce ne sont que quelques individus qui ont ces pouvoirs-là? Et puis bon, évidemment, il y a deux écoles qui s'affrontent. L'école la plus répandue, c'est que les phénomènes de la perception extrasensorielle, elle est propre à tout un chacun, mais certains réussissent à mieux l'exprimer que d'autres. Autrement dit, toi et moi, on est tous capables de chanter, tous les auditeurs aussi, on est tous capables de chanter. Mais c'est pas certain que si on se met à chanter, on va chanter comme Céline Dion ou Elvis Presley. Ben, c'est pas sûr, cela. Moi, je sais que je chante très bien, mais bon.
Je suis la personne sur deux qui chante mal, Christian, je l'accepte. C'est correct.
Mais tu comprends. Donc, tout le monde peut chanter, mais certains vont chanter mieux que d'autres. Et c'est un peu je dirais que dans l'ensemble de la communauté des parapsychologues, c'était un peu la prémisse de base. C'est un phénomène qui est commun à tout un chacun. Maintenant, la question est de savoir si ce phénomène-là, il est propre à tout le monde. Où se trouve le siège de la perception extrasensorielle? Il faut bien que ce soit quelque part dans notre cerveau. Quelle est la partie de notre cerveau qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne?
À développer, mettons.
À développer, oui. D'ailleurs, ne vous faites pas avoir avec des livres genre « Apprenez à développer vos pouvoirs paranormaux », là. Ça vaut jamais le prix du papier sur lequel c'est imprimé.
Wow.
Ça fonctionne pas, ça.
Il y a de la place pour faire de l'argent partout.
Oui, oui, j'en ai vu quelques-uns de ces livres-là. Là, c'est une stupidité là, renversante. Bref, et là, on a un article qui vient de paraître dans le magazine qui s'appelle Cortex, qui est un magazine qui se dédie aux sciences cognitives. Et ils ont mené une expérience qui est révélatrice. Ça, je le dis tout de suite, là. Le nombre de sujets n'était pas assez élevé, puis il faudrait que l'expérience soit reprise, etc. Mais c'est déjà une ouverture qui est très intéressante. On a un groupe de scientifiques qui a été dirigé par un scientifique canadien, d'ailleurs, de la région de Toronto, qui s'appelle Dr. Maurice Friedman, qui est au Beecrest Health Science. Et ils ont mené une expérience en utilisant ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Ça, c'est beaucoup de points sur Scrabble. T'sais. Fait que ça s'appelle le SMTR, hein, de façon plus raccourcie. Et ce que ça fait, c'est qu'on envoie à travers le cerveau. C'est une technique qui n'est pas essentiellement dédiée à la parapsychologie. On envoie des ondes électromagnétiques à travers le cerveau et on voit de quelle manière la résonance de certaines régions du cerveau, du cortex cérébral, va réagir. Et ça peut permettre de déterminer, on l'utilise notamment dans la maladie d'Alzheimer, mais on peut l'utiliser également, par exemple, dans des gens qui ont des problèmes d'élocution hein, ou des problèmes, différents problèmes qui semblent être liés à des mauvais échanges électrochimiques à l'intérieur du cerveau.
On va vérifier si les courants se font bien.
Oui, c'est ça, si les terminaux là, entre les synapses puis les neurones, tout ça fonctionne. Donc, c'est un peu ce que l'on fait. Et là, donc, on a pris un groupe de 108. C'est une expérience qui visait la parapsychologie. Hein. On n'a pas trouvé ça au hasard en cherchant la maladie d'Alzheimer. Là. On s'est dit, les scientifiques se sont dit, on va essayer de faire un test pour voir si en stimulant certaines parties du cerveau, on réussit à augmenter ou diminuer la perception de l'environnement. Et si on augmente la perception de l'environnement, est-ce que ça peut aller jusqu'à la perception extrasensorielle? Donc, on est allé un peu dans cette expérience-là. On a choisi un groupe de 108 candidats. Là, c'est ce que je te raconte. Là, l'information là, est sortie il y a 2 jours.
Okay. Hein,
l'article est publié il y a 2 jours. Puis déjà, j'ai pu voir qu'il y avait une levée de bouclier de la communauté scientifique parce que c'est assez révolutionnaire. On a pris 108 candidats. Et sur les 108 candidats, on a procédé à des stimulations en utilisant cette fameuse technique de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive.
C'est tellement long, quoi. Mais ça a l'air sérieux, justement. Tu te dis comme, OK, je m'ostime pas là-dessus, j'écoute.
Ça doit être vrai, ça. Ça doit marcher, cette affaire-là. Fait qu'on a pris 108 candidats qu'on a séparés en 3 groupes. Donc, un premier groupe, on a fait une stimulation de la région frontale médiane droite. Dans un deuxième groupe, on les a branchés sur la machine, mais il n'y avait absolument aucun envoi de signaux électromagnétiques. C'était notre groupe témoin. Et puis, on avait ensuite un autre groupe dont on a stimulé la région frontale médiane gauche.
Okay.
Et on demandait à ces gens-là d'influencer un chiffrier électronique, un générateur de nombres aléatoires. Nombre aléatoire, c'est une machine qui fait apparaître essentiellement des 0 et des 1. C'est tout. C'est tout ce qu'elle...
Pas du binaire. Okay.
Bon, ouais. Et elle le fait de manière aléatoire. Ça peut être 3, 0, 8, 1 d'un coup, puis après ça, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Tu vois un peu le genre. Donc, ça se fait de manière aléatoire. Et tu comprends, comme c'est une machine qui fait ça de... Elle n'est pas programmée sur rien. Elle ne fait que sortir des nombres de manière aléatoire. Ultimement, sur une période de temps ou sur une longue période de temps, tu vas arriver à un nombre généralement équivalent. Il y aura autant de 0 que de 1 qui va sortir, sauf qu'ils ne sortiront pas nécessairement toujours en séquence de 1, 0, 1, 0, 1, 0. On a bien compris ça. Et là, on a découvert que quand on demandait aux gens qui étaient particulièrement stimulés dans la région frontale médiane gauche, on obtenait des résultats, des anomalies statistiques dans les nombres aléatoires. Donc, par exemple, on demandait aux gens, alors qu'ils étaient stimulés par cette stimulation magnétique transcrânienne répétitive, on lui demandait, du côté médian gauche, on leur demandait, par exemple, d'influencer les nombres aléatoires, en leur disant, ben voilà, concentrez-vous sur le chiffre 1. Donc, dans les deux autres cas, ceux qui étaient stimulés essentiellement sur la région frontale médiane droite, ou ceux qui n'avaient rien du tout, ben le générateur de nombres aléatoires y est allé de manière aléatoire.
Okay.
Mais ceux qui étaient influencés du côté gauche, alors là, on a vu apparaître soudainement un nombre anormalement élevé de 1. Et on a refait l'expérience et ça fonctionnait toujours de la même façon. Et là, cette zone frontale gauche, elle est associée à la prise de décision, à la planification, au comportement orienté vers un objectif et le contrôle des impulsions. Tout ça se fait justement dans ce front, le lobe frontal médial gauche.
Est-ce que c'est là qu'on a les réflexes aussi maintenant?
Oui, et là, on se pose la question, on se dit, c'est comme si... Et là, on y va, on est dans l'univers du spéculatif. Hein. On comprend que c'est une nouvelle recherche, une nouvelle découverte, de nouvelles données. Mais les chercheurs arrivent à la conclusion que c'est comme si un peu notre lobe frontal gauche serait le siège de la perception extrasensorielle, nous permettrait d'avoir, peut-être faciliterait la communication par la télépathie, la télékinésie et tout le reste. Et dans le cas présent, c'est d'influencer des nombres aléatoires. On parle ici de télékinésie. C'est un peu comme si... À partir du moment où il agit, parce que ce que l'on faisait avec la stimulation magnétique, c'est un peu comme si on l'endormait. Il était anesthésié.
OK.
Et à partir du moment où il est anesthésié, ces gens-là étaient capables de performance en influençant les nombres aléatoires. C'est un peu comme si, lorsqu'il est en état d'éveil, cette partie, ce lobe frontal, cette région frontale médiane gauche, agissait comme un filtre, une barrure. Et c'est elle qui nous empêche, en fait, de pouvoir utiliser ou de faire de la télépathie, de la télékinésie et tout le reste. Donc, visiblement, ceux qui réussissent à le faire, ceux qui semblent être plus doués, les surdoués, peut-être souffrent-ils de micro-lésions au lobe dans cette région-là du cerveau qui leur permet d'exprimer davantage leurs habiletés psy. Hein, le psy, c'est le nom que l'on donne à ces performances. Donc, évidemment, c'est très controversé parce qu'eux arrivent en disant, ben voilà, si existe dans le cerveau humain. Cette recherche-là semble démontrer que la perception extrasensorielle, elle existe, et elle existe de manière latente dans cette partie du cerveau, et que c'est cette partie de notre cerveau, cette région frontale, médiane gauche, qui, dans l'état d'éveil, empêche l'expression de cette perception extrasensorielle. Alors là, évidemment, on peut se poser la question, mais pourquoi? Parce que dans les mécanismes de l'évolution, on se dit que lorsqu'il y a des mutations, que ces mutations aident l'espèce ou sont utiles pour l'espèce, elles vont demeurer. Puis si la mutation ne sert à rien, elle va disparaître.
Pourquoi si... ça est en latence? Ben oui.
Voilà, c'est pourquoi une fonction comme celle-là est-elle en latence et ne s'est jamais développée, hein, comme par exemple les griffes sur un animal ou quelque chose. Et là, ben, évidemment, on est dans l'univers du spéculatif. On se dit ben, peut-être que parce que cette perception-là ne joue pas un rôle prépondérant dans la survie de l'espèce. Donc, finalement, la façon dont l'évolution s'est concentrée, elle a développé des habiletés que l'être humain avait qui permettaient sa survie, comme par exemple le fait de voir, de courir, bon, etc., d'améliorer des performances physiques qui étaient plus proches, qui aidaient davantage à sa survie que cette perception extrasensorielle qui reste, somme toute, un peu ténue. Donc, c'est peut-être une des raisons. Mais déjà, évidemment, c'est une recherche qui soulève énormément de scepticisme. Le nombre est trop peu élevé, 108 candidats, et on s'est concentré essentiellement sur des chiffres aléatoires. Mais disons que pour la première fois, après pratiquement 100, parce que la recherche en parapsychologie commence aux alentours de 1907-1908, là, de manière plus sérieuse. Donc on peut dire aujourd'hui, là, pratiquement 120 ans après le début de la recherche en parapsychologie, pour la première fois, on a des données qui semble pointer dans une direction cérébrale où se trouve le siège de la perception extrasensorielle, si elle existe, bien sûr. Donc, alors, avant, on s'imaginait toutes sortes de concepts un peu ésotériques ou mystiques, là, l'aura et tout le reste, là, pour essayer de justifier cette perception extrasensorielle. Alors là, on a des données, des expériences de laboratoire qui semblent pointer dans une direction. Mais il faudra attendre avant de s'enorgueillir et dire « Oh, voilà, ces scientifiques ont trouvé le siège, des scientifiques canadiens ont trouvé le siège de la perception extrasensorielle. » Ben, attendons si les Américains n'y mettront pas un tarif douanier là-dessus.
Mais je ne vais pas prendre longtemps pour la deuxième phase de test, Christian, et je souhaite être plugué du côté gauche de mon cerveau, mais pour la loterie. Si je suis capable d'influencer de façon aléatoire la loterie, je me bats volontaire, moi.
Ben, tu vois, c'est un des éléments qu'ils ont mentionné en disant non seulement c'est intéressant comme recherche, mais ça nous montre également que les éléments que l'on dit, là, un peu comme les événements aléatoires qui se produisent dans notre vie, ne sont peut-être pas toujours aussi aléatoires qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que peut-être que quelque part, on pourrait avoir une influence sur ces éléments, ces événements aléatoires. Mais bon.
Alors, voilà. Je vais me concentrer cette fois, 7 cerises, cloches.
Oui, c'est ça. Donc,
je vais les commander. J'adore ça, je veux suivre parce que ça lève justement le voile. On a-tu des super pouvoirs, mais qu'on
le sait, on sait pas. Ouais. Et que notre cerveau, hein, de manière à cause des mécanismes de l'évolution, a mis un peu une espèce de couverture là-dessus, là, un couvert pour empêcher ces phénomènes de pouvoir se manifester comme on le voudrait, de manière plus spontanée. Mais bon, attendons pour voir si de nouvelles recherches, mais je trouvais que la nouvelle valait la peine d'être évoquée.
100%, Christian, on va faire une courte pause et au retour, t'en as d'autres, on va avoir le temps d'après moi pour une deuxième sur en fait, le sujet de ton choix. On a un petit line-up, je te laisse choisir pour le retour de la pause.
OK, parfait, on va y aller avec les NDE.
Super, restez là ici même sur les ondes de Radio X.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission, et Christian, je vais avoir besoin d'explications pour le prochain sujet, l'imagerie des NDE, donc de l'expérience de mort imminente pour réduire l'anxiété face à la mort. Serais-tu en train de nous dire que l'image et l'idée de vivre une expérience de mort imminente, ça nous conscientise et sensibilise à la mort carrément?
À peu près.
OK.
À peu près. Mais je sais pas, je te l'ai déjà dit, mais moi, j'ai vraiment une peur phobique de la mort.
Ben, c'est pas un sujet qui me fait triper, moi, non plus. J'ai perdu un père à l'âge de 37 ans, fait que je me dis, mon tour s'en vient bientôt. C'est mon feeling.
Voilà, même bientôt, entendons-nous. Mais même quand j'étais adolescent, c'est un sujet que même avec des amis, puis c'est sûr qu'adolescent, tu as 14, 15, 16 ans, la mort n'est pas quelque chose qui fait partie du quotidien. Et puis pourtant, quand on abordait ces questions sur la mort, je préférais mettre un terme à la conversation.
Genre, c'est vertigineux. On passe à autre chose. Tu sais,
ouais, voilà. Il y avait quelque chose là-dedans qui m'angoissait. Et cette peur de la mort, bien évidemment, plus on vieillit, plus la préoccupation de la mort, elle est là.
Ouais.
C'est bien normal. Et pour beaucoup de gens, la peur est quelque chose, la mort est quelque chose de très anxiogène. C'est quelque chose de très troublant. Et ce qui nous amène à notre nouvelle, c'est un scientifique qui travaille au Singular Research Center Intelligence Technologies. Le type s'appelle David Glovalsky. Et c'est un organisme tentaculaire de l'université de l'université de Santiago de Compostela qui se trouve en Espagne. Donc, Glovalsky a vécu en 2006 une expérience de mort imminente. Donc, il était à faire une randonnée pédestre, il a eu un malaise et il s'est écroulé, a vécu une expérience de mort imminente. Il n'eût été de l'intervention rapide des services d'urgence, mais il serait décédé. Donc, je tiens tout de suite à préciser pour les gens qui nous écoutent, peut-être que des gens qui sont un peu moins familiers par l'expression « mort imminente », de quoi parle-t-on? Bien, il faut voir la mort comme étant un processus. Hein. C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où prenons l'exemple d'un malaise cardiaque, la personne s'écroule, on entre dans un processus de mort. Donc, progressivement, les organes vont peu à peu s'éteindre les uns après les autres, vont cesser de fonctionner, et le cerveau, qui n'est pas alimenté en oxygène, va également cesser de fonctionner. Donc, ce processus peut prendre de 2, 3, 4 minutes avant d'être complété, après quoi c'est la mort. Donc, la mort est un processus. Et on peut couper court à ce processus par l'intervention soit des paramédics qui vont utiliser un défibrillateur ou de la drogue, etc., des drogues quelconques.
L'naloxone, mettons, dans le cas d'une overdose.
Voilà, pour essayer de ramener le sujet. Donc, on peut arrêter le processus de la mort. Dans 30 % des cas, contrairement à ce que l'imagerie qu'on se fait, on a l'impression que c'est tout le monde qui vit ça. Là. Non, c'est seulement 30 % des gens qui auront vécu cette expérience au seuil de la mort. Ce n'est pas une expérience de mort, parce qu'à date, la seule personne que je connais qui est revenue de la mort, il s'appelle Jésus.
OK. Fait que la lumière au bout du tunnel ou l'espèce de passage de l'image qu'on peut voir des fois, c'est 30 %
C'est seulement 30 %. C'est pas tout
pas
le monde.
C'est pas beaucoup, ben non.
Et il faut faire attention, ça ne veut pas dire que les autres ne le vivent pas, hein, parce que ça se peut que ce soit aussi un peu comme les rêves. Hein. On nous vit chaque nuit, toutes les personnes nous rêvons pendant plusieurs heures, en moyenne de 4 à 6 heures, là, dépendamment du temps de sommeil. Tout ça. Et pourtant, il y a un certain nombre, il y a un pourcentage de gens qui ne se rappellent jamais de leurs rêves. Hein. Dès qu'ils se réveillent le matin, ils vont dire « moi, je rêve jamais ». C'est pas vrai, on rêve tous.
Ouais.
Mais dès qu'ils se réveillent, dès qu'ils ouvrent les yeux, ils n'ont aucun souvenir des rêves qu'ils ont fait durant la nuit. Il est possible que 100 % des gens, dans un processus de mort imminente, que 100 % des gens vivent le processus, mais seulement 30 % d'entre eux s'en rappellent, ils peuvent en parler. Donc, ça reste un peu un débat. Mais 30 % des gens vont vivre cette expérience un peu onirique, hein, qui ressemble un peu à du rêve, où c'est pas toujours la même chose. Soulignons que les expériences, elles sont communes à tous les gens, quelle que soit leur religion, quelle que soit l'obédience, que l'on soit musulman, que l'on soit chrétien, que l'on soit athée, l'expérience, elle est la même pour tout le monde. Simplement l'interprétation que les gens feront. Hein. Des gens diront, quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai été accueilli par des êtres de lumière. D'autres parleront qui sont accueillis par le Christ ou des anges. Hein, on va mettre des étiquettes. Oui, d'autres diront des proches. On va mettre des étiquettes en fonction de nos croyances et de nos attentes. Mais l'expérience, elle est la même pour tout le monde. Et elle se produit selon des processus. Hein. Il y a un processus de sortie. Hein. Donc, les gens disent, j'avais l'impression de me voir au-dessus de mon corps, de voir l'équipe médicale qui s'acharnait pour essayer de me ranimer. Et ensuite, il y a le déplacement. Ça peut se faire instantanément. Dans d'autres cas, des gens diront qu'ils ont voyagé dans un tunnel Mais peu importe, il y a un déplacement. On quitte l'espace où on est pour aller ailleurs. Et dans cet ailleurs, il y a l'accueil qui peut être par des proches, des gens décédés, le Christ, des anges.
Il y en a qui se voient aussi. Hein? Il y en a qui, il y a comme une espèce de vision vol d'oiseau ou God view, là, vraiment,
oui,
de,
absolument.
De
oui.
soi-même.
Donc, il y a ce déplacement. Et là, ben, il y a, à un moment donné, la personne voit un peu comme sa vie qui défile devant lui à grande vitesse. Et puis, il y a le moment de faire le choix de rester, de repartir. Et lorsqu'il repart, ben, il y a le retour où l'individu retrouve, réincorpore son corps. Donc, grosso modo, puis là, je schématise beaucoup, je simplifie l'expérience, mais c'est grosso modo l'expérience de la mort imminente. Mm-hmm. Et ce qui est propre, hein, l'expérience qu'a vécu notre scientifique, Glowacki, elle est semblable à celle de millions de gens à travers le monde. Et le dénominateur commun qu'on retrouve chez tous les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, et je sais, j'en connais moi des gens autour de moi qui ont vécu cette expérience-là.
Okay.
Et ce qui les a transformés, c'est cette inquiétude par rapport à la mort qui est complètement disparue.
En étant exposés au moins une fois.
Ils ont complètement perdu ça. Et aujourd'hui, quand ils s'expriment de la mort, d'abord, il y a une transformation personnelle, hein, des individus qui étaient très, très matérialistes, par exemple, ou très concentrés sur eux-mêmes. Je ne dirais pas jusqu'à dire égocentriques, mais qui étaient très centrés sur eux-mêmes, vont avoir une vision beaucoup plus large. Ils sont devenus très humanistes. Ils sont devenus globalistes. Ils sont ils ont développé une forme de spiritualité qu'ils n'avaient pas avant. Mais surtout, le dénominateur commun. Ils ont tous perdu cette crainte par rapport à la mort. Hein. Aujourd'hui, ils voient la mort comme un simple passage, quelque chose de merveilleux, bon, etc., etc. Donc, et notre scientifique, David Glowacki, avec l'équipe du Singular Research Center, se sont dit, est-ce que cette façon, l'impact qu'a l'expérience de la mort imminente, est-ce qu'on ne pourrait pas l'exploiter auprès de malades qui sont en phase terminale et qui ont des grandes périodes d'anxiété par rapport à la mort. Alors, on sait que l'expérience de mort imminente, on peut l'introduire de deux façons. D'abord, on peut essayer de recréer de manière sensorielle l'expérience à travers de l'imagerie virtuelle et on peut également l'introduire en utilisant des drogues, principalement des psychotropes.
Ah ben oui, des genre champignons, là?
Oui, des champignons, du LSD. Hey, ouais. J'ai vu une expérience extraordinaire.
J'ai fait un drôle de rêve. OK.
Donc, le whisky, on le comprend, comme il travaille avec des malades qui sont en phase terminale et qui sont déjà... Ben, en fait, lui, il ne travaille pas, il travaille avec un groupe de recherche, mais comme il vise, hein, pour mener son expérience, il vise des gens qui sont en phase terminale. Ce sont souvent des gens qui ont déjà des cocktails pharmaceutiques ou pharmacologiques.
Pour les mélanger un petit peu.
Fait qu'on veut pas mettre, on ne veut pas rajouter des drogues à ça, donc on a décidé d'y aller vers l'imagerie virtuelle. Donc, essayer de jouer sur le sens, hein, sur la perception. Donc, avec de l'imagerie virtuelle, on est en train de développer un programme où on va utiliser l'imagerie virtuelle d'une expérience de mort imminente, l'aspect très euphorique de l'expérience, et essayer de voir si on soumet des patients qui sont en période d'anxiété par rapport à leur décès prochain, est-ce qu'on peut réussir à réduire l'anxiété chez ces gens-là et leur donner une fin de vie qui serait plus radieuse que d'être dans son lit et penser 24 heures sur 24
ouais.
à la mort.
Ne serait-ce même, Christian, de faire monter la statistique du 30% que tu mentionnais tantôt. C'est la peur de la mort, c'est la peur de l'inconnu aussi, mais si tu me promets que je vais avoir cette espèce de film-là en transition ou en désensibilisation puis que c'est supposé se passer de même, ça répond une partie à un questionnement ou peut-être que ça nous conforte, là, je ne sais pas.
Ouais. Mais on le comprend, on est ici dans une zone nouvelle, hein, ça ouais. jamais été fait. Hein. Généralement, quand les gens sont anxieux parce qu'ils vont mourir, bon, on dit, ben, on va te donner un petit peu plus de morphine, monsieur Tremblay, là, un petit peu plus de morphine aujourd'hui. T'sais. Donc là, on va essayer d'y aller vers une autre approche, et c'est cette approche, il y a ce dénominateur commun chez les gens qui ont vécu des NDE, donc pourquoi ne pas l'exploiter? Donc là, on nous annonce que les essais cliniques vont débuter très bientôt. On en est en train, en ce moment, à construire le modèle de l'imagerie virtuelle. Et on espère avec ça pouvoir l'introduire très prochainement de manière clinique pour voir comment les gens vont réagir à ça. Mais c'est assez étonnant de voir une expérience qui est considérée, même encore aujourd'hui dans les milieux académiques, elle est très controversée, l'expérience de la mort imminente.
À quel niveau? Parce que ça pourrait peut-être créer l'effet inverse puis faire encore plus peur aux gens? Ou...
Non, dans le débat actuellement dans le domaine de la science, d'ailleurs, les expériences de mort imminente, je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant sur le plan du débat, parce que dans d'autres sphères d'activité, disons, paranormales, souvent, tu as des gens qui vont nous donner des opinions. Tout le monde se sent le besoin de donner son opinion. Quelqu'un qui ne connaît rien à la zoologie ou à la biologie ou à l'environnement va te donner son opinion sur le monde du Loch Ness ou le Bigfoot. Tu dis, ouais, mais ça ne tient pas la route, mais ce n'est pas grave, je te donne mon opinion. La même chose avec les histoires de fantômes ou les histoires d'ovnis. Je ne veux pas paraître méchant, là, mais tu sais, le nombre de fois où des gens qui ne connaissent rien à la physique ou à l'astronomie, était prêt à me réinventer l'univers à coup de physique quantique, mais il était incapable d'épeler le mot galaxie sans faire une faute d'orthographe.
Ouais.
Donc, tu vois un peu le genre. Alors que dans les expériences de mort imminente, les gens qui prennent part au débat, ce sont généralement des professionnels. Donc, ce soit ou des neurologues, des spécialistes en sciences cognitives, des urgentologues, des médecins, des cardiologues. Donc, des gens qui ont une très, très grande connaissance des mécanismes biologiques et des états cliniques pour pouvoir arriver à dire, ben voilà, il y a ce débat-là. Et le débat actuellement, c'est de dire, il y a un groupe de gens, appelons-le les NDE, qui ont une approche plus spirituelle, eux croient que l'expérience de la mort imminente est une expérience qui est en fait un coup d'œil, hein, disons ça comme ça, un petit coup d'œil sur l'au-delà. Donc, on croit qu'il y a une vie après la mort et que l'expérience de la mort imminente est une façon de voir, un peu d'entrevoir cette vie après la mort. Donc, on a un groupe, et c'est un groupe composé par de véritables médecins, des scientifiques. Ils ont cette approche-là, disons, une approche plus spirituelle. Et puis, on a une autre approche, beaucoup plus cartésienne, plus matérialiste, et de scientifiques qui disent non, on est tous d'accord, l'expérience de la mort imminente, elle est réelle pour le patient. La personne qui le vit a vécu cette expérience-là. Est-ce que c'est une vision de l'au-delà, comme le dit une première école? L'autre école, elle dit non, la vision, elle est bien réelle, sauf que ce sont des mécanismes d'autodéfense, entre guillemets, de notre cerveau.
Parce que le cerveau a peur du vide.
Oui, le cerveau a peur du vide. Et en même temps, le cerveau sait qu'il meurt. Hein? Et il sait, comme il est là en train de mourir, c'est un peu comme s'il mettait de l'avant des mécanismes pour se dire « je vais rendre l'expérience moins dramatique ». Donc, il crée un peu comme un rêve ou un scénario, une imagerie. Et cette imagerie, elle est liée, bien sûr, à des mécanismes de notre cerveau. Je sais que le temps file, mais prenons simplement notre cerveau. Hein. Les gens, par exemple, qui vivent des expériences de mort imminente, disent l'une des dernières étapes de l'expérience de la mort imminente, c'est de dire, je me rappelle avoir vu ma vie qui défilait devant moi. Hein. Je me voyais enfant, grandir, etc. Or, on sait maintenant que le cerveau, contrairement à ce qu'on a cru longtemps, que le cerveau ne s'éteint pas d'un seul bloc. Hein. Ce sont des parties du cerveau qui vont s'éteindre les unes après les autres.
Okay.
Un peu comme si tu faisais le tour de ta maison et tu éteignais les lumières pièce par pièce. La dernière pièce dont tu vas éteindre la lumière, donc la dernière pièce qui s'arrête dans notre cerveau, c'est une zone sur les côtés du cerveau qu'on appelle la zone de Broca. Et dans cette zone, c'est là qu'est emmagasinée l'information autobiographique.
De long terme, mémoire long terme.
Oui, mais la mémoire biographique aussi.
Okay.
Et donc, ce qui nous concerne. Et comme c'est la dernière partie du cerveau à s'éteindre, il ne faut pas s'étonner que les gens qui vivent une expérience de mort imminente disent « la dernière chose que j'ai vue, c'est des images de ma propre vie, hein, les images de ma vie ». Oui, c'est la dernière partie de ton cerveau à s'éteindre, celle qui contient ces informations d'ordre autobiographique. Donc, les chercheurs, c'est un groupe de chercheurs, une école dit « ces mécanismes-là, ils s'expliquent de manière neurologique, ils s'expliquent par la chimie du cerveau et n'ont rien à voir avec l'au-delà ». Là où l'expérience, elle fait controverse en ce moment, c'est pas de savoir est-ce qu'on doit diminuer l'anxiété des gens ou des patients qui sont en phase terminale en utilisant des mécanismes, même si ce sont des mécanismes oniriques, mais c'est plutôt de dire, est-ce qu'il n'y a pas un danger de faire croire à ces gens-là qu'il existe une vie après la mort? Un faux espoir alors qu'on n'en a pas la certitude. Mais...
Est-ce qu'on en a de besoin? En fait, c'est le côté, moi, je trouve ça très humaniste.
Voilà,
est-ce qu'on en a de besoin pour... Moi, je trouve que les soins de santé manquent un petit peu de ça.
C'est un peu cette question-là. Et la réponse que a donnée Glowacki quand on a posé cet élément-là, c'est de dire, c'est un peu comme les gens qui ont la foi. Hein, les gens qui ont la foi, qui sont en phase terminale, ils ont l'impression, ils disent, bon, ben, je vais mourir, mais je vais aller rejoindre mon Créateur ou je vais me retrouver près de Jésus, etc. Est-ce qu'on doit leur dire, est-ce qu'on doit faire venir un athée qui va essayer de le convaincre?
C'est de la foutaise, non, c'est ça.
Est-ce qu'on va faire venir un athée pour lui dire, hey, c'est de la foutaise, c'est pas vrai, Dieu n'existe pas? T'sais, on ne veut pas faire ça, tu sais. Ces gens-là ont besoin de réconfort et quel que soit le mécanisme qu'on met en place pour les réconforter, ben je pense que quelque part, c'est gagnant parce qu'on n'est pas des machines, on est des humains, on est des êtres sensibles.
Ouais. Je m'en vais méditer là-dessus ce soir, Christian. Très intéressant ce soir. Puis je vois avec le texto qui réagit, la série The OA sur Netflix également en ferait probablement référence aussi. Mais je te remercie beaucoup, Christian, pour l'émission de ce soir. On se retrouve lundi prochain pour Suspect X et je souhaite une bonne fin de semaine de relâche à nos auditeurs. Et on se dit à la semaine prochaine.
Absolument.
Bye.
Bonne semaine. Bye-bye.